Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous, une émission spéciale sexualité aujourd'hui avec Catherine Solano, médecin sexologue que vous connaissez tous. Nous allons nous intéresser aux fluides sexuels. Au moment de la puberté, vous le savez, le corps change énormément et que l'on soit un jeune homme ou une jeune femme, eh bien la zone sexuelle fabrique à ce moment-là plusieurs sortes de liquides qui peuvent nous étonner ou nous mettre mal à l'aise puisque nous manquons généralement d'informations sur ces différents fluides. Du coup, au lieu d'apprécier un corps qui fonctionne correctement, eh bien beaucoup d'hommes ou de femmes perçoivent avec dégoût ces liquides provenant de la zone sexuelle. Ainsi, de nombreuses femmes s'inquiètent de leurs pertes blanches, ne sachant pas si elles sont normales, cherchent à les faire disparaître quand il ne faut pas ou inversement, les supportent quand elles sont anormales. Et pour les hommes, me direz-vous, eh bien ils sont nombreux à se questionner sur leur sperme, d'aspect bizarre, trop gluant, pas très glamour, quand d'autres comprennent mal qu'un liquide qui n'est ni du sperme ni de l'urine puisse sortir de leur sexe. Alors pendant presque une heure avec le docteur Catherine Solano, on va tout vous expliquer sur ces fameux fluides sexuels pour nous permettre d'en savoir plus sur notre intimité et celle de notre partenaire et tenter de nous les faire apprécier tant leur rôle est essentiel pour notre fertilité et notre plaisir sexuel.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Igor, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Ça nous fait plaisir de vous retrouver, merci d'être avec nous Catherine pour répondre à nos auditeurs. Alors Catherine, cette thématique des fluides sexuels, eh bien elle vous est chère hein, car nombre de vos patients les trouvent sales, rebutants, alors que notre corps est formidable et a tout prévu. Ces liquides ont un rôle important, bref ils sont essentiels Catherine.
Oui, voilà. Moi, je suis toujours frappée de voir que certaines personnes vont vous dire « berk » pour les pertes blanches ou le sperme, ou dire « ça me dégoûte », alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est très important dans notre fonctionnement et qui est un peu tabou. Je pense que c'est, bon, bien sûr, dû à l'éducation, mais peut-être aussi certainement au fait que c'est près de la zone urinaire et anale. Et du coup, si vous voulez, on a peut-être tendance à mélanger un peu tout ça et à se dire c'est pas propre comme les urines ou les selles. Évidemment, c'est des choses à éliminer. Alors que les fluides sexuels, c'est quelque chose qui participe au plaisir, comme vous l'avez dit, et à la fertilité. Donc, c'est vraiment important. Moi, je me dis, j'ai de la chance d'être médecin et de savoir à quoi ça sert et combien c'est important et précieux, vous voyez.
Oui, et nous, on a de la chance de faire de la radio et de vous avoir pour nous expliquer tout ça. Alors, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous contacter sur les réseaux sociaux, nous laisser des messages sur Facebook, ou nous envoyer des notes vocales sur WhatsApp. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre d'entre vous. Et puis, on va commencer tout de suite avec Alvera qui nous a justement laissé une note sur le serveur. Alvera qui nous contacte de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville.
Bonjour, je m'appelle Alvera Boutier. J'ai 17 ans. Je vis à Pointe-Noire, précisément au Congo. Je salue Igor et toute l'équipe de RFI qui font à ce que cette émission puisse bien se passer. Et sans oublier le docteur Solano. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue. Alors, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que les pertes blanches sont un signe de mauvaise hygiène ou c'est naturel?
Et puis on remercie Alvera de nous souhaiter la bienvenue en tout cas. Catherine Solano, que peut-on dire à Alvera?
Alors les pertes blanches, ben c'est quelque chose de tout à fait normal chez les femmes et toutes les femmes en ont à partir de la puberté et toute leur vie. Et donc, c'est pas du tout une histoire de mauvaise hygiène. Ces pertes blanches, elles sont naturelles, elles sont même indispensables pour qu'une femme soit fertile et vraiment… C'est pas parce qu'une femme a une mauvaise hygiène qu'elle aura pas de perte blanche, ni elle a surtout pas de perte blanche parce qu'elle a une mauvaise hygiène. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pertes blanches, elles changent d'aspect au fil du cycle féminin. C'est ça aussi peut-être qui fait que les femmes ont parfois du mal à s'y habituer. Et d'ailleurs, on voit qu'Alvera, elle a 17 ans, mais c'est souvent à la puberté qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces trucs que je trouve dans ma petite culotte? Pourquoi c'est à cet âge-là? Parce qu'une enfant, une petite fille, a très peu de pertes blanches. Elle en a un tout petit peu, mais c'est juste l'humidité qui retombe, alors qu'une femme, après la puberté, a des pertes blanches parce qu'elle devient fertile et donc son corps change et fonctionne différemment. Donc, après les règles, quand les règles sont finies, il n'y a pas beaucoup de pertes blanches. Et puis, petit à petit, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, elles deviennent, au fil des jours, il y en a qui apparaissent et qui sont transparentes, élastiques, et elles peuvent parfois être abondantes. Quand je dis élastique, ça veut dire si on les prend entre deux doigts, entre le pouce et l'index, on écarte, on peut faire un fil. On dit des fois elles sont filantes. Et puis, ces pertes blanches, il faut savoir, elles sont comme du blanc d'œuf cru, voilà. C'est la comparaison qu'on prend tout le temps, vous voyez, transparent et un petit peu filant. Eh bien, ces pertes blanches sont extrêmement importantes. Elles apparaissent les jours de fertilité maximale. Pourquoi? Parce qu'elles nourrissent les spermatozoïdes et elles les aident à remonter vers l'ovule. Donc, c'est vraiment des pertes très importantes. Il ne faut surtout pas se dire que c'est un manque d'hygiène. Vous voyez, au contraire, c'est un signe de bonne fertilité. Et puis, après l'ovulation, elles continuent, mais elles changent. Elles deviennent opaques, donc elles ne sont plus du tout transparentes. Elles deviennent blanches ou un peu jaunes. Elles forment des petits paquets. Et leur rôle alors, c'est de boucher l'entrée de l'utérus. Donc après, plusieurs jours après l'ovulation, les spermatozoïdes ne peuvent plus remonter. L'utérus est bouché, peut-être aussi pour laisser une chance à un embryon de s'installer et d'être bien isolé. Et puis, parfois, juste avant les règles, ce bouchon qui bloquait l'utérus, il tombe, puisque les règles vont tomber, et on peut avoir un petit paquet de pertes blanches ou jaunes un peu. Donc, ce que je décris, c'est valable pour toutes les femmes de la puberté jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, ça varie plus, puisqu'il n'y a plus de cycle. Et surtout, les femmes qui n'ont pas de contraception hormonale, parce que si vous avez une pilule ou un stérilet hormonal, forcément, vos cycles ne fonctionnent pas de manière naturelle. C'est des cycles un peu artificiels ou qui sont transformés par la pilule. Donc, ce que je veux dire à Elvira, c'est que c'est tout à fait normal. Et non seulement normal, mais c'est une bonne chose d'avoir des pertes blanches, voilà.
Et ce n'est pas une mauvaise hygiène, ça c'est une question qui revient très souvent et à laquelle vous devez répondre très souvent, Catherine.
Je peux peut-être même ajouter quelque chose, c'est qu'au contraire, les femmes qui ont une mauvaise hygiène, ce sont les femmes qui se lavent trop la plupart du temps. C'est très rare les femmes qui ne se lavent pas suffisamment, au contraire, il y a des femmes qui se lavent trop.
Qu'est-ce que vous appelez se laver trop, Catherine ?
Voilà, trop, ça veut pas dire, ça veut dire laver l'intérieur du vagin. Parce que l'intérieur du vagin est un petit peu acide, ce qui lui permet de se défendre contre les microbes. Dès qu'on fait remonter de l'eau, qui est forcément moins acide que le vagin, on fait remonter aussi les microbes qui sont près de l'anus, etc. Et on crée des infections souvent, ou des problèmes, ou un déséquilibre de la flore. Donc, c'est plutôt les toilettes internes qui apportent des problèmes, voyez. Alors que la toilette externe, ça, c'est normal, tout le monde se lave quand même.
Quand même.
Voilà.
Très bien, merci pour ces précisions, Catherine. On va prendre un autre auditeur, c'est Ruth qui nous appelle de Kinshasa et pareil, qui nous a laissé une note vocale sur WhatsApp.
Bonjour Igor, bonjour docteur Solanon, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la Radio du Monde. Oui, je réponds au nom de Ruth Kaiba de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa. En fait, j'ai une question que je dois poser au docteur. Ma question est de savoir quand un homme éjacule et que son sperme est trop léger. Je peux dire un peu comme de l'eau, mais un peu coloré. Alors, je voulais savoir si cela est dû à quoi. C'est dû à une maladie ou bien c'est ce que je voulais savoir. Et merci pour la réponse.
Alors, Catherine Solano, un sperme très léger, moi je ne sais pas ce que c'est. On dirait de l'eau, mais coloré, nous dit Ruth. Est-ce que c'est une maladie, se demande-t-elle?
Alors, d'abord, il faut savoir que le sperme, ça change beaucoup d'apparence chez un même homme. C'est-à-dire que sa couleur peut varier, sa consistance peut varier, sa transparence peut varier. Et ça, c'est tout à fait normal parce que, en fait, le sperme, ça n'existe pas dans le corps avant l'éjaculation. C'est-à-dire que le corps fait un petit travail de chimie, de mélange ou de cuisine, si on veut. Il mélange plusieurs liquides pour fabriquer du sperme juste avant l'éjaculation. Et ce qui se passe, c'est que c'est jamais les mêmes proportions. Du coup, le sperme n'a jamais la même apparence. Donc, on a les liquides qui viennent des testicules avec les spermatozoïdes. Il y a le liquide qui vient des vésicules séminales, qu'on appelle le liquide séminal. Il y a le liquide prostatique. Et du coup, tout se mélange et c'est jamais tout à fait pareil. Et alors, par rapport à la question de Ruth, ce qui est important, c'est que Quand un homme a des éjaculations fréquentes, par exemple, imaginez un homme, il a 2 ou 3 éjaculations dans la même journée, eh bien son sperme devient plus transparent et il contient moins de spermatozoïdes, ce qui est normal parce que le corps ne peut pas fournir des spermatozoïdes, il en fournit en continu, mais il y a quand même une limite. Hein. Et d'ailleurs, pour bien expliquer ça, c'est que quand un homme doit avoir un spermogramme, c'est-à-dire une analyse de sperme dans un laboratoire, on va lui demander d'apporter du sperme qu'il a recueilli par masturbation et donc une éjaculation. Et on lui demande, s'il vous plaît, il ne faut pas que vous ayez eu d'éjaculation pendant 3 jours pour que le sperme soit suffisamment riche en spermatozoïdes, parce que comme ça, on peut calculer combien il y en a et faire un résultat assez fiable. Parce que s'il avait une éjaculation dans la journée, peut-être qu'il aurait bien moins de spermatozoïdes à l'examen. On lui dirait, oh là là, vous avez vraiment pas beaucoup de spermatozoïdes. Alors qu'en fait, si, mais c'est pas comparable. On ne pourrait pas comparer les différents examens, parce que si un jour il a éjaculé 1 heure avant et l'autre 15 jours avant, ça ne sera pas du tout les mêmes résultats. Donc, il faut savoir que le sperme, c'est très, très variable. Et donc, c'est pas parce qu'un, par exemple, un homme qui éjacule 3 fois par jour, c'est peut-être pas tous les jours, ça finit par faire beaucoup, mais pourquoi pas, bah, son sperme, il va être moins riche en spermatozoïdes, mais en fait, son corps en fabrique autant, il est fertile tout autant. Donc, je pense que peut-être que Ruth a un ami, ça je ne sais pas, puisqu'elle nous le dit pas, avec qui elle a des rapports sexuels fréquents, et si elle a des rapports sexuels fréquents, bah, c'est normal qu'il soit plus transparent, voilà.
Donc il ne faut surtout pas s'inquiéter, ce n'est pas une maladie. On a bien
alors
compris.
Quand même, je vais quand même ajouter une chose, parce qu'elle dit il est coloré. Alors s'il est vraiment coloré, j'allais dire s'il y a du sang dedans, vous voyez, ou souvent c'est pas très grave quand il y a du sang dedans. Hein. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Par contre, si c'est régulier, il vaut mieux consulter. De même, s'il est vert ou qu'il sent pas bon, ça peut être une infection quand même. Ça existe aussi, mais globalement, c'est quand même pas si fréquent. Je dis quand même ça parce que je voudrais pas qu'elle se dise non, c'est pas grave et que son ami ou son mari ait une infection, vous voyez.
Oui, non, mais c'est bien de le préciser. Bon, après, Ruth nous parle d'un sperme qu'elle a, on dirait de l'eau colorée, a-t-elle oui. dit. Donc, ouais. Pas de traces de sang apparemment, rien de tout ça. Ouais. On continue avec les fluides sexuels des hommes. Catherine, on a une question Facebook d'Adamou qui nous a écrit de Côte d'Ivoire et qui vous demande, Catherine, est-ce que le liquide pré-éjaculatoire peut être à la base d'une grossesse?
Alors, je dis carrément tout de suite oui, le liquide pré-éjaculatoire peut entraîner une grossesse. Ça veut dire que si un couple a un rapport sexuel avec une pénétration, que l'homme se dit « je vais me retirer juste avant l'éjaculation et éjaculer à l'extérieur », eh bien, il peut quand même y avoir une grossesse parce que, tout simplement, il peut y avoir des spermatozoïdes dans le liquide pré-éjaculatoire. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le liquide pré-éjaculatoire, normalement, il ne contient pas de spermatozoïdes. Ça, c'est clair. Mais comme il passe dans l'urètre, il peut très bien entraîner des spermatozoïdes qui se trouvaient là avant. Donc, il faut se méfier parce que ce phénomène fait qu'effectivement, on peut avoir une grossesse même sans éjaculation à l'intérieur du vagin. Et c'est la raison pour laquelle la méthode du retrait, donc qui consiste à se retirer, présente des échecs. Donc, il y a des grossesses même en utilisant cette méthode. Donc, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne veut pas d'enfant, eh bien, il faut mettre un préservatif avant la pénétration. Il ne faut surtout pas faire comme certains couples qui se disent « bon ben, on veut quand même profiter du rapport sexuel sans préservatif, on fait une pénétration, quelques mouvements de va-et-vient, je me retire, se dit l'homme, je mets mon préservatif et on recommence et on va jusqu'au bout ». Ben non, ça c'est une pratique à risque de grossesse. Donc voilà. Et alors, je vais rajouter une chose, Igor, avant que vous le disiez. C'est que c'est exactement la même chose pour les infections sexuellement transmissibles. Hein. C'est que le liquide pré-éjaculatoire peut aussi transmettre des infections sexuelles. Donc, c'est tant pour la grossesse que pour la protection contre les infections sexuellement transmissibles, il faut utiliser des préservatifs.
Oui, la technique de se retirer au dernier moment, ne fait pas ses preuves. C'est pas une bonne idée. On a bien compris.
C'est pas la meilleure idée du siècle. Alors, il y a un bémol. C'est quand même une bonne idée. Il y a un cas où c'est une bonne idée, d'après moi.
Alors, quel est ce cas?
Quand on est en pleine action, ouais. Je vais vous dire, on est en pleine action et on se dit tout d'un coup, zut, on est en train de faire une bêtise. eh bien, il vaut quand même mieux ça serait dommage de se dire, bah, c'est trop tard, ça sert à rien. Parce que même si le liquide préjaculatoire peut contenir des spermatozoïdes, mais il y a quand même moins de risques si on se retire avant l'éjaculation que si on va jusqu'au bout. Je tiens quand même à préciser ça.
Mais vous avez bien fait. Allez, on repasse au standard, si je puis dire, sous forme de notes sur le serveur WhatsApp. C'est Alan qui nous a laissé un message. Alan qui nous laisse un message de Mauritanie.
Bonjour Igor, bonjour docteur Catherine Solano. Je m'appelle Alan. Je vous appelle de la Mauritanie, j'ai 45 ans. En fait, lors de votre, je dirais avant de dernière émission, vous aviez parlé de l'hygiène intime et que la surutilisation des gels, si je me rappelle bien, endommagerait le vagin. Et alors qu'il se trouve que ma femme et moi, nous utilisons beaucoup, beaucoup le gel intime lors de nos rapports parce que bon, il y a quelques soucis à son niveau en matière de lubrification. Donc, on utilise les gels lubrifiants. Maintenant, ce que je voulais demander, est-ce que ces gels que nous utilisons, les lubrifiants, les gels intimes ou les lubrifiants, auraient des impacts négatifs sur le vagin ou la flore vaginale? Voilà ma question.
Un auditeur qui vous écoute régulièrement, Catherine, apparemment. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dit lors de la dernière émission, mais on va répondre à Alan sur l'utilisation des gels lubrifiants. Est-ce qu'il peut avoir des conséquences négatives sur la flore vaginale?
Alors, déjà, je dis merci à Alan parce que ça m'a fait plaisir d'entendre quelqu'un de Mauritanie, parce que cette semaine, j'ai eu un patient qui m'écoute sur RFI, bah c'était pas Alan, hein, et qui est aussi originaire de Mauritanie. Donc c'est
le hasard fait bien les choses.
Voyage, voilà. Et donc, alors franchement, je pense que Alan n'a pas bien compris ce que j'ai dit ou je ne me suis pas bien exprimée parce que moi, au contraire, je conseille vivement l'utilisation de gel lubrifiant pendant les rapports sexuels. Comme dans le couple d'Alan, quand une femme a des soucis de lubrification, il faut surtout pas faire de pénétration et de mouvement de va-et-vient si une femme a mal, parce que ça va entraîner des blocages. Et puis, si elle a mal, elle aura encore moins envie, parce que évidemment, ça donne pas envie d'avoir mal, hein. Et du coup, si elle n'a pas d'envie la fois suivante, elle aura encore moins de lubrification, donc encore plus mal, et ça fait une sorte de spirale infernale. C'est de pire en pire. Quand on utilise du gel lubrifiant, au contraire, la femme, elle a moins mal, ça peut même devenir agréable, et du coup, elle se redétend petit à petit, et ça va de mieux en mieux. Donc, au contraire, l'utilisation de gel lubrifiant est très conseillée. Et j'ajoute que c'est très conseillé aussi dans un cas vraiment important, c'est quand on utilise des préservatifs. Parce que les préservatifs, eh bien, c'est une matière qui est beaucoup moins douce que la peau du pénis. C'est moins bien étudié que la nature, quand même, hein, on le dira. Ça produit beaucoup plus de frottement. Donc, ça peut faire plus mal si une femme a une lubrification limite. Et même quand on utilise des préservatifs lubrifiés, parce qu'ils le sont assez souvent quand même, eh bien, il est conseillé fortement de rajouter du gel lubrifiant. Donc, franchement, moi, je suis totalement pour l'utilisation de gel intime et je ne pense pas avoir dit que c'était gênant. Alors, pour ce qui est de la flore vaginale, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand on dit il faut pas laver, je l'ai dit, il faut pas laver l'intérieur du vagin parce que l'eau va couler sur la vulve et risque d'entraîner des microbes dans le vagin. Mais quand on met du gel lubrifiant, le gel lubrifiant, il est prévu pour cet usage. Donc, évidemment, il est pas plein de microbes, hein, c'est fait pour ça. Et puis, il faut savoir que le vagin a quand même une capacité de défense importante contre ce qui est étranger. On peut mettre un pénis dans un vagin, normalement il fait pas une infection, sauf s'il y a une infection sexuellement transmissible, mais c'est quelque chose de naturel. C'est pareil, le gel lubrifiant, il va retomber après et il y aura pas de problème du tout sur la flore vaginale. Donc au contraire, je conseille vivement à Alain et à sa femme de continuer à utiliser du gel lubrifiant. On peut même utiliser assez facilement des huiles végétales. Vous voyez, à condition, quand on a des rapports sexuels sans préservatif dans un couple stable et fidèle qui n'a pas d'infection sexuellement transmissible, on peut utiliser des huiles végétales, vous voyez. Mais c'est plutôt conseillé d'acheter du gel qui est formulé pour ça plutôt que d'utiliser n'importe quel produit autrement, hein. Mais donc, je suis vraiment pour l'utilisation du gel. Et je vais rajouter un petit truc encore. Aussi pour les caresses. Il y a beaucoup de couples qui ne l'utilisent que pour la pénétration. Mais c'est aussi très intéressant pour faire des caresses manuelles, un petit peu des caresses sexuelles. Je veux dire, un peu comme les kinésithérapeutes utilisent de l'huile de massage. Ça rend le contact beaucoup plus agréable.
Et Catherine, alors justement, je rebondis sur vos propos. Comment vous expliquez que certaines femmes aient des problèmes de lubrification alors que, et vous nous l'avez expliqué ce matin dans le Conseil Santé, les femmes ont les glandes de Skene et de Bartholin, hein, terme technique que vous allez nous expliquer, pour justement favoriser cette lubrification?
Alors, c'est-à-dire que beaucoup de femmes ont des difficultés de lubrification pour des raisons assez diverses. La première raison, évidemment, c'est le manque de désir ou d'excitation. C'est-à-dire que si une femme a mal pendant deux ou trois rapports sexuels, mettons, le quatrième, elle va avoir peur. Et au lieu d'avoir un état d'excitation qui déclenche la lubrification à l'intérieur du vagin et au niveau de la vulve, eh bien, elle n'en aura pas. Ça peut être par certains médicaments qui bloquent parfois, qui rendent un peu les muqueuses sèches, que ça soit dans la bouche, au niveau vaginal ou des yeux. Il y a pas mal de médicaments qui peuvent faire ça. Ça peut être parce qu'elle est après une grossesse, elle vient d'accoucher, et comme les hormones chutent, souvent il y a une sécheresse vaginale. Ça peut être parce que son partenaire ne fait pas assez de préliminaires. Ça peut être parce qu'elle a un traitement hormonal. Ça peut être parce qu'elle est après la ménopause et que c'est pas évident. Vous voyez, il y a pas mal de raisons. Et alors, quand vous parliez des glandes de Skene et de Bartholin, ces glandes-là, ce sont des glandes de lubrification qui ne sont pas à l'intérieur du vagin, mais qui sont au niveau de la vulve, donc vraiment à l'entrée. Alors les glandes de Skene, c'est deux petites glandes qu'on appelle aussi les glandes para-urétrales parce qu'elles sont de chaque côté du petit orifice d'où sort l'urine. Et donc elles vont lubrifier, je dirais, l'avant de la vulve. Et les glandes de Bartholin, elles sont à l'arrière. Et donc, en cas d'excitation, elles se contractent et elles font sortir un petit peu de liquide, un peu de fluide, qui va hydrater l'arrière de la vulve. Et puis, à l'intérieur du vagin, il y a la transsudation vaginale. C'est un petit peu comme si l'intérieur du vagin transpirait un liquide un peu comme de l'eau, mais un tout petit peu plus épais quand même. Et du coup, c'est vraiment bien organisé pour avoir une lubrification partout, mais à condition d'avoir du désir et de l'excitation.
Voilà,
j'incite les hommes à déclencher le désir et l'excitation chez leur conjointe.
Merci pour ce petit cours d'anatomie. On a appris ce qu'étaient les glandes de Skene et de Bartholin. Allez, on repasse au standard. C'est Aboubacar qui a une question à vous poser. Aboubacar qui est à Conakry, en Guinée.
Bonjour Hugo, bonjour docteur Katele Selalo. Je me nomme Aboubacar, 33 ans. J'appelle depuis Conakry dans la capitale guinéenne. Ici, mon inquiétude est que moi, pendant le rapport sexuel, quand j'éjacule sur la femme, automatiquement le sperme coule, sauf comme de l'eau. Ça ne reste pas dans le vagin de la femme. Ici, ma question est de savoir la cause et aussi des solutions idoines pour remédier à ce mal qui est en train de me ronger depuis plus d'un an, 6 mois, depuis que je me suis marié. Parce qu'à présent, ma femme n'est pas encore tombée enceinte. Merci.
Alors Catherine, que peut-on dire à Aboubacar?
Eh bien, je peux dire à Aboubacar que ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Quand un homme a une éjaculation, le sperme est un petit peu épais, il va à l'intérieur du vagin, au fond du vagin, et au bout de quelques instants, il devient plus liquide. Il y a des produits chimiques qui déclenchent ça dans le sperme, c'est étudié par la nature parce que il est bien compact au début, c'est pour qu'il se colle un peu au fond du vagin. Et à un moment, s'il était trop épais, les spermatozoïdes, ils auraient du mal à remonter, donc il faut qu'ils se liquéfient. Et donc, ça fait ça à tous les couples et à toutes les femmes. Après un rapport sexuel, le sperme coule et ne reste pas dans le vagin. C'est totalement normal, ça arrive chez tout le monde, et il reste toujours suffisamment de spermatozoïdes à l'intérieur parce qu'il y a des dizaines de millions de spermatozoïdes dans le sperme. Donc, c'est pas à cause de ça que son épouse n'est pas enceinte, ça c'est sûr. C'est tout à fait normal. Bon, deuxième chose, Aboubacar dit, ça fait un an qu'on a des rapports sexuels et elle n'est toujours pas enceinte. Donc ça, c'est quand même un souci. Et donc, ce que je peux lui conseiller en premier, peut-être après, si ça fonctionne pas, il faudra aller voir un médecin pour demander son avis, voir s'il n'y a pas un souci quand même, mais c'est pas ce qui décrit son souci. Et donc, ça serait de repérer les jours où sa femme a des pertes blanches transparentes, assez abondantes et un peu élastiques, comme du blanc d'œuf cru. Donc, très transparent, très fluide. Si elle a des pertes comme ça, c'est les bons jours pour avoir des rapports sexuels. parce que c'est les pertes qui vont, enfin les pertes blanches qui vont nourrir les spermatozoïdes. Ça s'appelle la glaire cervicale, cette perte blanche, et qui va les aider à remonter dans l'utérus et aller jusqu'à l'ovule. Donc, viser les bons jours, ça peut aider. Hein, voilà ce que je peux lui dire. Mais si ça fonctionne pas, il faut consulter parce que peut-être qu'il y a un souci qui empêche la fertilité, mais qui n'a rien à voir avec l'aspect du sperme ou je sais pas ce que ça peut être, hein, mais il faut consulter si ça continue.
D'accord, bah écoutez, c'est noté. On espère que Abou Bakar a écouté votre réponse. Catherine, on marque une petite pause. On vous laisse le temps de vous réhydrater, de boire un petit verre d'eau. Et puis ensuite, vous répondrez aux nombreuses questions, très nombreuses même questions de nos auditeurs. À tout de suite, Catherine.
Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas, várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva. Meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, le docteur Catherine Solano, sexologue, répond à toutes vos questions sur les fluides sexuels, ces différents liquides fabriqués par notre corps qui ont tendance à nous dégoûter alors qu'ils ont un rôle essentiel pour notre fertilité et notre plaisir sexuel. Catherine, on continue donc à répondre aux auditeurs. Vous avez commencé à répondre en partie à une question que se pose Dolores qui nous a contacté par Facebook. Dolores qui est à Douala au Cameroun et qui vous demande qu'est-ce qui peut empêcher une femme de sécréter du lubrifiant même après une bonne dose de caresse, précise-t-elle.
Oui, alors déjà, c'est super que Dolores pose sa question comme ça parce que ça veut dire qu'elle a très bien compris qu'une bonne dose de caresse pouvait faire sécréter du lubrifiant. Donc, une des solutions, c'est
elle
ça.
Vous
quand
écouté,
même.
Donc, elle vous a écouté, Dolores.
Voilà. Ensuite, bon, bah, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais ce qui peut empêcher la lubrification sexuelle féminine liée au désir, c'est certains médicaments qui entraînent des sécheresses des muqueuses. Certains traitements hormonaux aussi. Parfois, la pilule peut bloquer la sécrétion, la lubrification chez certaines femmes. Pas toutes, hein, heureusement, et il y en a d'autres chez qui ça l'augmente, mais ça dépend de l'équilibre hormonal de chacun. L'après-grossesse, ben, le postpartum, comme on dit, les trois premiers mois après la grossesse, il y a une chute d'œstrogène naturelle et normale, et souvent, il y a une sécheresse vaginale, même quand la femme a du désir. Bien sûr, il y a l'absence de désir sexuel ou d'excitation, donc, comme dirait Dolores, l'absence de caresse, hein. L'absence de désir sexuel, bah, une femme qui n'a pas du tout envie, bah, forcément, elle n'aura pas de lubrification. Mais il y a aussi d'autres choses comme la fatigue. Chez une femme très fatiguée, bah, la lubrification ne fonctionne pas bien. Bon, un peu comme chez un homme très fatigué, l'érection ne fonctionne pas bien parce que la lubrification, c'est le phénomène féminin qui correspond à l'érection. Donc, la dépression aussi. Une femme dépressive, bah, elle n'a souvent pas beaucoup de désir et pas beaucoup d'excitation, pas du tout. Du coup, ben, ça marche pas, il n'y a pas de lubrification. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est les sentiments négatifs. C'est-à-dire que quand une femme est stressée, quand elle est énervée, quand elle est angoissée, quand elle est en colère ou qu'elle a du ressentiment contre son partenaire ou même son patron, hein, ça peut être un sentiment négatif extérieur au couple, eh bien, elle peut ne pas avoir une bonne lubrification parce que La bonne lubrification est déclenchée par l'excitation, qui est une émotion positive. Et si elle a plein d'émotions négatives en grande quantité, eh bien, les émotions négatives empêchent l'excitation d'être efficace parce qu'elle n'est pas assez forte par rapport au problème que la femme ressent émotionnellement à ce moment-là. Ça, c'est très important. Et les hommes ont des fois du mal à comprendre ça parce qu'ils arrivent plus facilement à dire « mon patron, mon bête, j'en peux plus de lui », mais hop, je n'y pense plus, je suis avec ma femme. Souvent, une femme, elle est un petit peu dans... Sa vie reste avec elle, même quand elle est au lit avec son partenaire, vous voyez. Et puis, il y a une autre raison du manque de lubrification, c'est la douleur. On en parle souvent, mais c'est tellement important. Si une femme a mal, eh bien, il ne faut pas se forcer parce qu'elle risque d'avoir encore plus mal la fois d'après. Et au lieu d'être dans le désir, d'être toute contente de faire l'amour, eh bien, elle va se dire, au secours, il faut encore faire l'amour, je vais peut-être avoir mal. Eh bien, elle n'aura pas de lubrification. Donc, vous voyez, il y a pas mal de raisons qui ne sont pas forcément très graves, hein, pour lesquelles la lubrification ne fonctionne pas. Et bien entendu, il peut y avoir des maladies graves aussi, mais là, je parle vraiment plutôt des choses que tout le monde peut rencontrer un jour ou l'autre, hein, Igor.
Bien sûr. Allez, on part à Bangui avec une question de Gaël sur note vocale.
Bonjour, Igor. Bonjour docteur Catherine Solano, je m'appelle Gaël Bidin, j'ai 26 ans, j'habite Bimbo, la ville la plus proche du capitale de la République centrafricaine, Bangui. Alors, j'ai mes deux questions à l'intention du docteur. La première est la suivante. Est-ce que la glaire cervicale témoigne vraiment le moment de fertilité chez la femme? Et la deuxième question, existe vraiment des différences entre la glaire cervicale et la cyprine, qu'on appelle chez nous la mouille chez la femme?
Alors, la différence entre la cyprine et la glaire cervicale, explication de texte, Catherine Solano.
Oui, alors, la cyprine, c'est la lubrification liée à l'excitation sexuelle. C'est-à-dire que quand une femme éprouve du désir, qu'elle est avec son partenaire, qu'ils font des caresses, il y a une lubrification dans le vagin. C'est-à-dire, c'est comme une transpiration, comme sous les aisselles, c'est des petites gouttelettes qui perlent à la surface et qui humidifient toute la surface intérieure de la zone vaginale. Ça, c'est la cyprine ou la lubrification. La glaire cervicale, c'est pas du tout la même chose. Ça vient pas du tout du vagin. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est pas la glaire vaginale. Vous voyez, c'est la glaire cervicale. Cervicale, ça veut dire qu'elle vient du col de l'utérus. Donc, la glaire cervicale, elle vient de tout au fond du vagin, à l'entrée de l'utérus. Et pourquoi elle vient de là? Ben, c'est parce que, effectivement, elle sert à la fertilité. Elle sert pas du tout à lubrifier les rapports, hein. Elle sert à faire remonter les spermatozoïdes dans le col de l'utérus. Donc, vous voyez, quand vous avez le col de l'utérus, la glaire cervicale tombe dans le vagin et les spermatozoïdes, quand ils trouvent de la glaire cervicale, ils s'accrochent à elle. Et c'est comme une échelle, je dis parfois, vous voyez, ou comme un filet. Et les spermatozoïdes remontent dans les mailles du filet. Et comme ça vient du col de l'utérus, ben, la glaire cervicale les guide vers l'utérus. Et donc, ils remontent jusque-là. Et même, une chose que je trouve vraiment magique, c'est que dans le col de l'utérus, qui pourtant n'est pas très grand, il y a comme des petites grottes, ce sont des petites glandes en fait, hein, où les spermatozoïdes vont se reposer et ils restent là pendant plusieurs jours souvent. Et toutes les heures à peu près, il y a un bataillon de spermatozoïdes qui monte à l'assaut de l'ovule parce que, en fait, la glaire cervicale dure plusieurs jours, mais l'ovule, lui, il est fertile que 24 heures à peu près. Donc, toutes les heures, il y a des spermatozoïdes qui remontent à partir du col de l'utérus après un rapport sexuel pendant plusieurs jours pour être certain qu'il y en a qui vont tomber le bon jour et pouvoir faire un bébé, enfin pouvoir faire un embryon, vous voyez. Donc effectivement, la glaire cervicale, c'est la période de fertilité de la femme et la cyprine, c'est seulement l'excitation sexuelle. Enfin, seulement, c'est lié à l'excitation sexuelle.
Donc, Gaëlle avait tout compris. Vous êtes tout à fait claire, Catherine. Enfin, moi, j'ai tout compris. Mais voilà, Gaëlle avait raison. La glaire cervicale, vous l'avez rappelé, témoigne de la période de fertilité de la femme. Allez, on enchaîne avec une question de Céline du Bénin. Céline, qui va vous poser une question.
Bonjour, monsieur Igor. Bonjour, madame Catherine. Je suis Céline, j'ai 34 ans. Je vous appelle de Cotonou. Ma question est de savoir, est-ce que les pètes blanches, c'est dangereux pour la santé? Si oui, est-ce qu'il y a un traitement à ça? Et ma deuxième question est de savoir comment traiter les règles douloureuses sans pour autant bouleverser son cycle menstruel, y compris la période de fécondité. Merci à vous.
Catherine, donc les pertes blanches, c'est vraiment une question qui revient régulièrement. Vous avez commencé à répondre à cette question au début d'émission. On va rassurer tout de suite Céline. Qu'est-ce qu'on peut dire à Céline ?
Voilà. Alors les pertes blanches, non seulement c'est pas dangereux, mais c'est naturel et il faut les respecter.
Faut pas les traiter.
Et sûrement pas les traiter. C'est comme si on disait la salive dans la bouche, est-ce que c'est naturel ou est-ce qu'il faut la traiter ? Ben non, heureusement que c'est humide comme endroit, sinon on aurait la bouche toute sèche. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont, ils sont très gênés. Pareil pour les yeux, pareil pour la zone vaginale, il faut que ça soit humide. Donc, il faut les respecter. Néanmoins, là où Céline a raison, c'est qu'il y a quand même des pertes blanches qui ne sont parfois pas normales. Et là, il faut traiter. Et donc, je vais vous dire un peu la différence entre les pertes blanches normales et anormales. Pour que nos auditeurs et nos auditrices réagissent et ne se disent pas tout est normal. Non, il y a des fois quand même des problèmes. Donc, les pertes blanches normales, c'est simple, elles sont confortables. Elles sentent pas mauvais, elles ne brûlent pas, elles ne démangent pas, elles provoquent pas des rougeurs ou des gonflements et elles font pas mal. Donc, si on a des pertes qui sont comme ça, c'est normal. Quand on a des pertes anormales, donc, elles peuvent soit sentir mauvais, soit brûler, soit démanger. Et là, on peut se gratter, par exemple, en cas de mycose. Elles peuvent provoquer des douleurs ou des gonflements. Eh bien, dans ce cas-là, ce sont des pertes blanches qui ne sont pas normales. Il faut consulter un médecin et, effectivement, peut-être les traiter. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, la deuxième question de Céline, c'était sur les règles douloureuses,
exactement.
Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, la première chose, je pense, c'est de demander l'avis de son médecin qui peut lui prescrire un médicament. Tout simplement, on prend des médicaments quand on a des règles douloureuses. Il faut pas rester en train de souffrir. Donc, soit du paracétamol ou mieux un anti-inflammatoire comme l'ibuprofène. Hein, ça se vend sans ordonnance à des doses pas forcément très fortes, mais c'est souvent très efficace. Quand ça ne suffit pas, quand une femme a vraiment des règles douloureuses tout le temps, on peut donner une pilule contraceptive. Mais dans ces cas-là, ça ne répond pas vraiment à ce que demandait Céline, parce qu'elle dit comment respecter la fécondité en soulageant les règles douloureuses. Donc, si vous prenez une pilule contraceptive, forcément, vous n'êtes plus fertile. C'est une autre solution, mais qui n'est pas idéale si on veut un bébé, évidemment. Et puis, ce que je veux ajouter aussi, c'est que pendant les règles, il ne faut jamais prendre d'aspirine, parce que l'aspirine, ça fait saigner. Et donc, si vous prenez de l'aspirine pendant vos règles, ben, vous aurez tendance à avoir des règles beaucoup plus abondantes. Voilà. Et puis, pour finir, c'est que les douleurs pendant les règles, quand ça vient à chaque fois que c'est très douloureux, ça peut être dû à une maladie qui s'appelle l'endométriose et ça peut être très, très douloureux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, qu'en cas de règles douloureuses qui durent, bon, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas inquiétant, mais si c'est à chaque fois, ça vaut le coup de consulter un médecin pour avoir son avis et faire un bilan, justement.
C'est toujours nécessaire d'aller consulter. Bah, écoutez, merci pour Céline. On enchaîne avec une question Facebook cette fois-ci. C'est Mustapha de Nouakchott en Mauritanie qui vous demande, Catherine, est-ce qu'une abstinence sexuelle prolongée peut être à l'origine d'une sécheresse vaginale ?
Alors oui, c'est une question très très intéressante, je trouve, de Mustapha, parce que oui, effectivement, quand on n'a pas de relation sexuelle depuis longtemps, c'est-à-dire plusieurs mois, je dirais pas un ou deux mois, mais peut-être 6 mois, 1 an ou plusieurs années, au début, quand on reprend une vie sexuelle, eh bien l'excitation sexuelle se fait moins bien, moins rapidement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez les femmes, ben, au début, la lubrification est moins bonne et chez les hommes, l'érection peut être plus difficile. Et c'est vraiment important à savoir parce qu'il faut un petit peu de patience, il faut recommencer et petit à petit, le fonctionnement sexuel redevient tout à fait normal et ça se fait facilement. Et donc, en attendant, quand on recommence sa vie sexuelle et que, bon, c'est pas terrible, l'érection n'est pas terrible ou la lubrification ne vient pas très bien, on peut s'aider. Donc, une femme peut s'aider avec un lubrifiant et un homme peut s'aider avec un médicament pour l'érection. Et c'est vraiment un élément important pour moi que Mustapha a posé parce que même quand on est jeune, mettons quelqu'un qui a 28 ans, donc c'est quand même jeune, ce redémarrage après une abstinence prolongée peut prendre du temps. Vous voyez, actuellement, j'ai 2 patients qui se sont mariés à 40 ans à peu près, 2 hommes, et ils n'avaient jamais eu de rapport sexuel parce qu'ils voulaient arriver vierge à leur mariage, ben ils ont eu des grosses difficultés d'érection au début parce qu'ils ont eu une abstinence très prolongée. Ça ne veut pas du tout dire que leur corps ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il faut insister puis que ça finit par refonctionner. Et puis c'est important parce que moi j'ai remarqué qu'il y a des personnes, je crois que c'est surtout les hommes d'ailleurs, mais pour ce genre de problème, mais ça peut être des femmes aussi qui se disent « ça marche plus, j'ai pas fait l'amour pendant 4 ans ». je suis séparée ou veuve ou divorcée, eh bien, j'ai essayé, ça ne marche pas, eh bien, tant pis, je vais plus avoir de vie sexuelle de toute ma vie. Ben, c'est dommage, parce que c'est dommage de rester célibataire quand on peut rendre quelqu'un heureux qui vous attend quelque part. Et puis, c'est dommage parce que avec de la patience, ça peut revenir. Je trouve ça très important d'informer nos auditeurs parce que ça peut être un homme qui rencontre une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 10 ans et qui se dit « elle a vraiment un problème ». Alors que s'il sait qu'il suffit de la patience, bah, leur relation va bien se passer. Et pareil, en sens inverse, quand une femme rencontre un homme qui n'a pas eu de relation depuis longtemps, bah, il faut qu'elle soit patiente et qu'elle l'encourage. Et puis normalement, ça revient.
Voilà, de la patience, il n'y a aucune fatalité là-dedans. Allez, une question qui nous vient de N'Djamena cette fois-ci, c'est Christelle qui vous la pose.
Bonjour la RFI, moi c'est Christelle, je vous appelle de N'Djamena au Tchad. J'ai 25 ans et je n'ai pas encore eu de rapport sexuel. J'ai un cycle très compliqué qui vient des fois 25 jours et d'autres 28. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est dû à ce problème? Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas encore fait de rapport sexuel? À la longue, est-ce que j'aurai de problèmes lorsque j'aurai besoin de faire un enfant? Merci et à plus.
Alors, que peut-on dire à Christelle, Catherine Solano?
Ah, mais je peux dire à Christelle qu'elle s'inquiète beaucoup, ça doit être une personne anxieuse parce qu'elle n'a pas du tout un cycle irrégulier. Une femme qui a des règles, enfin des cycles entre 25 et 28 jours, mais c'est tout à fait normal, c'est un cycle régulier. Hein. Je dirais à Christelle, mais notre corps, c'est pas une machine. Il n'ovule pas comme un ordinateur qui va faire bip à heure fixe. Hein. Il n'est pas programmé. C'est tout à fait normal. Toutes les femmes ont des cycles qui varient un petit peu d'un ou deux jours, deux ou trois jours. C'est rien du tout. Quand on parle d'une femme qui a des cycles irréguliers, ça veut dire qu'une fois, c'est 45 jours, l'autre fois, c'est 28, après, c'est 3 mois.
C'est beaucoup plus prononcé.
C'est des variations. Ah bah oui. Et puis, elle a des cycles réguliers qui sont d'ailleurs plutôt courts, 28 jours, parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles, par exemple, de 34 jours. Bon, ça dépend. 28 jours, c'est le classique. Elle a des cycles, au contraire, très réguliers et assez rapprochés, enfin des règles assez rapprochées. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle ait des problèmes d'infertilité. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle n'ait jamais eu de rapport sexuel. Donc, vraiment, je peux rassurer Christelle et toutes les femmes qui se disent « j'ai des cycles irréguliers parce qu'une fois, c'est 28 et une fois, 31 », bah, c'est normal, c'est bienvenue au club, toutes les femmes sont comme ça. Hein.
Bienvenue au club, eh bien, ça va rassurer Christelle de faire partie du club, rien de grave.
Voilà.
On passe à Fristelle qui vous pose une question de Brazzaville au Congo.
Bonjour Igor, bonjour docteur Solano et toute l'équipe de Priorité Santé. Je m'appelle Fristelle, j'ai 25 ans, je vis à Brazzaville. Ma préoccupation est celle-ci, j'ai vraiment du mal à tenir longtemps au cours d'un rapport sexuel. Vraiment, c'est difficile pour moi d'atteindre 2 minutes. Et la dernière fois quand je faisais l'amour avec ma petite amie, au moment qu'elle voulait prendre mon pénis pour le mettre au vagin, j'avais éjaculé sur sa paume de main. Et quelques semaines plus tard, quand je lui ai dit qu'on puisse faire l'amour, elle a dit non, parce que la dernière fois, elle n'était pas satisfaite. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est dû parce que j'avais éjaculé sur sa paume de main ou bien parce qu'elle n'avait pas pris du plaisir.
Catherine, que peut-on dire à Fristelle? Est-ce que c'est tout simplement ce qu'on appelle un éjaculateur précoce?
Là, c'était une éjaculation précoce, mais je pense que peut-être que Fristelle n'a même pas d'éjaculation précoce. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il a seulement 25 ans, que visiblement, il a vu son ami et puis 3 semaines après. Donc, quand vous avez des rapports tous les 15 jours ou 3 semaines, presque tous les hommes ont une éjaculation très rapide. Mmh. C'est seulement quand on a des rapports réguliers 2 ou 3 fois par semaine, enfin, ça dépend, il y a des hommes qui même tous les 15 jours vont pouvoir durer. Mais beaucoup d'hommes ont besoin d'avoir 2 ou 3 rapports par semaine, pour surtout quand ils sont jeunes, pour que l'éjaculation ne soit pas trop rapide. Donc ça n'a rien de très inquiétant. Par contre, je pense que il a dû se sentir très gêné de vouloir faire une pénétration et puis que l'éjaculation vienne avant. Et son ami a dû se sentir très gêné aussi. Et donc, moi, je me dis peut-être que son ami a eu l'impression que Fristelle avait fait exprès d'avoir son éjaculation avant la pénétration, qu'elle ne se sentait pas respectée et qu'il se disait oh, « je m'en fiche qu'elle n'ait pas de plaisir puisque j'ai mon plaisir ». Et ça, je trouve ça dommage parce que des fois, les femmes ont du mal à comprendre. Mais moi, je suis une femme, hein, je ne le comprends que parce que j'ai fait des études de sexologie. Je ne suis pas mieux que les autres autrement. Je tiens à le dire. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Et donc on peut avoir l'impression qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Alors que un jeune homme, il fait en général tout ce qu'il peut pour que sa partenaire ait du plaisir. Et ce que je pourrais dire à son ami, c'est que c'est vraiment dommage parce que c'est en essayant et en réessayant que petit à petit, on arrive à faire l'amour d'une manière plus satisfaisante, quoi. Donc, il faut que les femmes sachent que l'éjaculation, ça se contrôle pas comme un geste, c'est pas comme on lève le doigt, j'éjacule ou j'éjacule pas, c'est quelque chose qui est émotionnel. Et donc, moi, je trouve que Fristel devrait dire à son ami, écoute, je suis désolée que ça se soit produit dans ta main, mais tu m'as fait des caresses trop excitantes et mon corps, il a réagi trop vite, bien plus vite que j'aurais voulu. Est-ce que tu as été choquée ou déçue? Dis-moi ce que tu ressens parce que moi, j'ai envie qu'on reste ensemble et qu'on recommence. Et donc, ça serait bien qu'ils en parlent. Et alors, je sais que c'est pas facile de parler de la sexualité, surtout de parler de l'éjaculation dans la main de sa copine. C'est évident, c'est pas facile, mais il faut vraiment essayer, j'allais dire, de se donner un coup de pied dans le derrière pour le faire, de se forcer un petit peu, parce que sinon, on peut passer à côté d'une belle relation parce qu'on n'a pas osé parler, vous voyez.
Oui, puis c'est important de communiquer dans le couple et notamment de ces questions intimes qui nous lient. Donc voilà, on va rassurer en tout cas Fristel, voilà, rien d'anormal comme vous l'avez dit, il n'a que 25 ans, à lui d'aller parler à sa petite amie. Une question Facebook à présent de Richard qui nous écrit du Sénégal. Comment augmenter la quantité de spermatozoïdes dans le sperme ? Catherine, que peut-on dire à Richard?
Alors là,
je vous les livre telles quelles, les questions, Catherine.
Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on sait, c'est que quand on a une abstinence de 3 ou 4 jours, donc pas d'éjaculation pendant 3 ou 4 jours, la quantité de spermatozoïdes augmente dans le sperme. Donc, c'est pour ça que quand on fait un spermogramme en laboratoire d'analyse médicale, on demande aux hommes de ne pas avoir eu d'éjaculation plusieurs jours avant la réalisation du spermogramme. Mais ça, c'est l'augmenter pour un examen. On peut faire ça pour un rapport sexuel. Mais en fait, on ne sait pas comment l'augmenter en général, sauf ce qu'on sait quand même, c'est qu'on sait éviter ce qui, dans l'environnement, abîme vos spermatozoïdes. Par exemple, parce que ce qui compte, c'est pas seulement la quantité, mais c'est leur bonne santé, les spermatozoïdes. Par exemple, une chose qui abîme beaucoup les spermatozoïdes, bah, c'est le tabac. Une chose qui abîme beaucoup les spermatozoïdes, c'est de mal manger, de mal manger gras, de manger sucré, d'être obèse aussi, de pas faire de sport. Et aussi la chaleur intense. Par exemple, porter son téléphone portable qui chauffe dans une poche tout près de vos testicules, ben ça les réchauffe et c'est pas très bon pour les spermatozoïdes. Donc, on sait surtout éviter de faire du mal aux spermatozoïdes plus que prendre des produits ou faire quelque chose qui les fasse augmenter, voyez.
Allez, on
c'est
passe.
Ce que je peux dire à Richard.
Bien sûr, on repasse très rapidement au standard, ce qui nous reste très peu de temps, Catherine, avec une question d'Amadou, pardon, de Guinée.
Bonjour, Priorité Santé. Je me nomme Amadou Diallo, je suis de la Guinée-Conakry. J'ai 23 ans. Depuis l'année dernière, il y a le liquide synovial qui coule à travers mon pénis à chaque fois que je me lave ou le matin. Après les premières urines, ça m'arrive aussi des fois pendant la journée sans me rendre compte. J'ai consulté quelques médecins, mais ils m'ont dit que c'est normal à mon âge. J'aimerais savoir si la cause est due à la constipation qui me fatigue à chaque fois ou du fait que je n'ai pas connu de femme dans ma vie. Merci et à très bientôt.
Catherine, très rapidement, 20 secondes, que peut-on dire à Amadou ?
Alors, d'abord, la constipation n'a rien à voir, c'est le tube digestif et c'est différent de l'appareil sexuel. Ensuite, peut-être qu'Amadou a des éjaculations la nuit en dormant parfois et que le matin, du coup, dans ses urines, ça pousse ce qui reste comme sperme. La deuxième chose, c'est que c'est probable que dans la journée, c'est plutôt du liquide pré-éjaculatoire, c'est-à-dire qu'il est tout jeune et quand il a une excitation, il y a un petit peu de liquide pré-éjaculatoire qui sort quand il a un début d'érection ou d'excitation.
Merci donc, Catherine, je vous coupe, excusez-nous parce que c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Catherine Solano d'avoir répondu à nos auditeurs. Merci également à toute l'équipe de Priorité Santé, à Cetou Samaké, Ophélie Lassen et Didier Bleu. On se retrouve demain pour une émission spéciale sur les maladies tropicales négligées. À demain.
Avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.